Bonjour. Mettez-vous un instant dans la peau d'un sous-officier durant la Deuxième Guerre mondiale. Il a sous ses ordres un groupe d'hommes et malheureusement la radio est en panne. La ville dont il doit s'occuper, la ville qu'il doit défendre, est sans cesse attaquée par l'ennemi. Il est découragé, il ne sait plus quels sont les ordres. Il y a une rébellion qui commence à se développer au sein même de ses troupes. Que va-t-il se passer? Le commandement l'a-t-il oublié? Où est l'officier qui était responsable de lui? Il n'a plus de nouvelles. On peut imaginer l'angoisse de cette personne et son attente d'avoir des nouvelles pour savoir qu'est-ce que je dois faire face au combat que je dois livrer, face aux attaques que je subis. Quels sont les ordres du commandement et de mon officier? Et imaginez ce que ce soldat ressent lorsqu'il voit un coursier arriver avec une lettre à la main, celle de l'officier, cet officier qui était également son ami, son mentor, celui qui l'a formé, auprès de qui il a fait ses classes et qui lui avait donné cette mission-là. Et le postier lui donne cette lettre. Imaginez ce que ressent ce soldat lorsqu'il lit les encouragements que lui envoie son chef et également les recommandations qu'il lui donne. Et en plus, avec une promesse merveilleuse, c'est que bientôt, lui-même va venir le rejoindre. Eh bien, c'est un petit peu dans cet état d'esprit que devait être le jeune Timothée, qui était un homme qui s'était engagé aux côtés de l'apôtre Paul dans sa vie et dans le service pour faire grandir l'annonce du message de l'Évangile dans toute l'Europe. Un jeune qui était dans une église où il rencontrait des difficultés, où il se sentait seul. Et enfin, il reçoit une lettre de son ami, de son mentor, de celui qui l'a formé, de celui qui lui a tout appris, celui qui l'a mis en responsabilité. Enfin, il reçoit des lettres. Et cette première lettre qu'il reçoit dans la Bible, elle est tout simplement appelée la première lettre de Paul à Timothée. Vous voyez, on ne s'est pas cassé la tête pour trouver le titre. Ce document est dans notre Bible. Cette lettre fait partie de ce que Dieu a voulu que tout homme sur terre, toute femme sur terre puisse découvrir. Alors que c'est un courrier qui serait plutôt à être classé comme secret défense entre un jeune qui est au front, qui est au travail dans l'église, et celui qui l'a formé et qui avait la responsabilité d'établir toutes les églises, un courrier qui lui est personnel avec des recommandations précises qui lui sont données. Mais ce message, si son contenu est d'une importance secret défense, eh bien ce message, pour autant, n'est pas un message qui devait rester privé, caché, mais qui était destiné à être connu aux yeux de tous et à être connu 2000 ans plus tard et à être lu, à être étudié. C'est pourquoi les anciens vous proposent de faire quelque chose que nous n'avons encore jamais fait. Nous avons déjà fait des séries, par exemple l'année dernière, la précédente série que nous avons fait, c'est que nous avons prêché tout l'évangile selon Marc, petit morceau par petit morceau, au long de quasiment 2 années. Et ce que nous vous proposons en fin d'année, c'est de faire une série de prédications qui soient suivies, c'est-à-dire que tous les prédicateurs, dimanche après dimanche, vont se succéder ici pour parcourir et pour qu'ensemble nous puissions étudier cet enseignement, cette lettre de Paul, du premier au dernier verset. Il y aura juste 2 exceptions, vous ne savez peut-être pas encore, mais nous avons la joie d'accueillir Fred Sanchez, un des missionnaires que nous soutenons, qui est invité et qui sera là bientôt. Donc ce dimanche-là, nous ferons une pause. Et bien sûr, lors de Noël, du Nouvel An, ce sont les seules exceptions. Mais sinon, nous allons prêcher toute la première lettre de Paul à Timothée et nous terminerons cette lettre-là mi-février. Donc on vous encourage à lire, à la relire régulièrement, à lire les passages qui suivent, les versets qui suivent, ceux qui vous sont enseignés, pour que lorsque vous arriviez au culte, vous puissiez vraiment bénéficier de toute la saveur de cette lettre. Et il m'incombe donc aujourd'hui de vous faire l'introduction de cette lettre, mais en préambule, il faut resituer cette lettre pour en comprendre les enjeux dans son contexte. Vous avez ici une carte qui vous affiche le troisième voyage qu'a effectué l'apôtre Paul, qui nous est raconté dans le livre des Actes. Le livre des Actes est le livre de la Bible qui suit les évangiles et qui nous raconte comment, suite à la résurrection de Jésus-Christ, ses disciples, ses apôtres, ont apporté l'évangile dans toute l'Europe et tout le monde. Sachant que l'Europe était gouvernée par l'Empire romain, et en propageant l'évangile dans tout l'Empire romain, eh bien alors ils étaient assurés que par ce biais-là, l'évangile serait annoncé dans le monde entier. Paul a effectué trois voyages qui nous sont racontés dans le livre des Actes. Durant son deuxième voyage, Paul a rencontré un jeune homme qui s'appelait Timothée. Certains pensent que Timothée s'était converti auprès de Paul durant son premier voyage missionnaire. Rien n'est moins sûr, on ne sait pas. Peut-être que Timothée était déjà chrétien quand Paul l'a rencontré. Mais en tout cas, au moment où ils se sont rencontrés, eh bien, Timothée, et vous le verrez dans la suite de l'étude de ce texte, où il nous a révélé plusieurs détails sur comment est-ce que Timothée est venu au service de Paul, Timothée s'est joint à Paul pour aller l'aider dans cette mission de parcours de voyage missionnaire où Paul allait établir des églises, de nouvelles églises en fonder partout où il passait, notamment dans les grandes villes. Et donc, Paul, c'est durant son troisième voyage que Paul va passer 3 ans à cette ville d'Éphèse que vous avez ici, qui est là. Cette ville d'Éphèse était une des villes les plus importantes et les plus stratégiques dans le voyage missionnaire de Paul. Dans le Nouveau Testament, sauf erreur de ma part, c'est l'église dont on a le plus de détails. C'est l'église dans laquelle Paul est resté le plus longtemps durant le livre des Actes. Durant ce voyage-là, Paul y reste 3 ans. Pendant 3 ans, Paul nous dit qu'il a enseigné tous les chrétiens, de sorte que, à la fin de ces 3 ans, eh bien, toute la région avait connu l'annonce de l'évangile, toute la région était évangélisée, et quand vint le moment de laisser les Éphésiens, Paul dit aux anciens, ce que je vous lis dans Actes au chapitre 20, Paul dit « Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous, et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs, donc c'est-à-dire de l'interne de l'Église, surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. » Retenez ce mot, vigilants. « Rappelez-vous que pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un, et parfois même avec larmes. » Paul s'est consacré pendant 3 ans à la formation des responsables de l'Église et on voit l'insistance qu'il dit « Je vous ai formé pendant 3 ans, un à un, jour et nuit. » Paul ne les a pas lâchés au foot. Vous savez, on parle du marquage à la culotte quand un défenseur s'accroche à la culotte, c'est l'expression. Eh bien voilà, c'est ce que Paul a fait pendant 3 ans avec ces responsables-là et avec les chrétiens. Il les a formés, mais Paul leur annonce. Il est sûr d'une chose et il fait une prophétie. Il y aura des problèmes. Au milieu de vous, dans l'Église, il y aura des personnes qui se détourneront. Et Paul doit les quitter pour retourner ensuite à Jérusalem. À Jérusalem, il est arrêté, il est envoyé à Césarée, il est en prison de Césarée, qui est un petit peu au nord ici. Il doit repartir à Rome. À Rome, là-bas, il est en prison, mais Paul envoie Timothée à Éphèse pour prendre le relais. Donc Timothée, qui avait été avec Paul, eh bien, est à Éphèse pour travailler. Quand Paul est en prison, en plus de cela, Paul écrit la lettre aux Éphésiens. Donc, c'est une lettre que nous avons également dans le Nouveau Testament, 6 chapitres, dont le contenu théologique que nous avons dedans, la teneur, les propos qui sont tenus, sont une des lettres les plus riches. Paul en met plein la vue. Ce qui montre deux choses, c'est que d'une part, les Éphésiens avaient déjà été bien formés, la présentation de l'évangile que Paul apporte n'est pas une présentation simple, il l'élève et il l'émerveille encore plus, on voit que c'est des gens qui avaient déjà des notions, qui étaient déjà claires, et on voit toujours dans cette lettre également, surtout à partir du chapitre 4 au verset 6, que les chrétiens d'Éphèse devait livrer un vrai combat pour vivre d'une manière digne de l'évangile. Ce n'était pas gagné. Paul avait passé du temps dans cette église. Il avait enseigné. Timothée avait passé du temps. Paul écrit une lettre, mais c'est toujours pas gagné pour l'église de rester fidèle à l'évangile. Et quand Paul est relâché de Rome, enfin, il écrit sa première lettre à Timothée, qui est à Éphèse, que Paul a laissé là-bas, pour lui donner des encouragements et des instructions pour savoir comment continuer et redresser cette église. Et je ne vais pas aller jusque dans le livre de l'Apocalypse qui parle également de l'église d'Éphèse, mais ça serait très intéressant de regarder encore les données qu'on a sur le livre d'Éphèse dans Apocalypse, mais ce n'est pas l'enjeu. Et dans cette lettre, Paul fait cette annonce dans 1 Timothée 3. Paul dit à Timothée, « J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. Je t'écris cependant tout cela afin que si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant. » Voilà le cœur du message de l'apôtre Paul. Je veux te rejoindre, mais au cas où ce projet-là soit reporté, et nous ne savons pas d'ailleurs si Paul a pu rejoindre Timothée, au cas où je ne puisse pas, je te donne des instructions pour que l'Église vive d'une manière qui soit conforme à la volonté de Dieu. Donc vous comprenez comment cette lettre, pour nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard, est importante. Si nous voulons être fidèles à Dieu, nous devons porter nos regards sur la première épître à Timothée, qui est très riche, vous allez le voir, au niveau des thématiques qui sont abordées par rapport à la vie de l'Église, au rôle des responsables, mais aussi de tous les croyants, des hommes, des femmes, des anciens, etc., etc. Tout le monde en aura pour lui. Cette lettre est écrite, comme vous le voyez, entre 64 et 66. Soit environ, si on fait le compte, 10 à 12 ans après la fondation de l'Église. 10 à 12 ans. Sur ces 10 ans, il y a eu 3 ans de présence de Paul, plusieurs années de présence de Timothée, un courrier spécial qui lui a été écrit, et enfin un autre courrier qui est écrit à un des responsables. Et ce que nous allons constater dans cette introduction de ce livre, c'est que l'Église d'Éphèse qui a grandi a besoin encore et toujours de revenir à l'Évangile. Parce que lorsque l'Église s'éloigne un tant soit peu de l'Évangile, elle est en train de mourir. Elle est en danger de mort. C'est ce que Paul va affirmer tout au long de cette lettre. Et je vous invite donc maintenant à lire les 11 premiers versets, donc à partir du chapitre 1 avec moi, les 11 premiers versets de cette lettre qui sont l'introduction générale de la lettre. Vous allez voir que nous avons dans ces 11 premiers versets toute la substance de ce que Paul va transmettre. Donc je lis dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, salue Timothée, son véritable enfant dans la foi. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, compassion et paix. En partant pour la Macédoine, je t'ai encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir. Vous vous souvenez, Paul, qui avait déjà lui-même averti les anciens quand il les a quittés, pour avertir certains de ne pas enseigner de doctrine étrangère à la foi, qu'ils cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et des généalogies interminables. Des préoccupations comme celles-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi. Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont égarés de ces principes et se sont égarés de ces argumentations sans aucune valeur. Ils se posent en enseignant de la loi, mais au fond, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni les sujets sur lesquels ils se montrent si sûrs d'eux-mêmes. Nous savons que la loi, donc là Paul fait référence à la loi de Dieu, la loi morale, la loi transmise par Moïse, que la loi est bonne, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. Il faut savoir ceci, la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les gens qui méprisent Dieu et les pécheurs, pour ceux qui n'ont ni respect ni scrupules à l'égard de ce qui est sacré, ceux qui tueraient père et mère, les assassins, les débauchés, les homosexuels, les marchands d'esclaves, les menteurs, les gens sans parole et d'une manière générale, tous ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement saint que vous avez reçu. Cet enseignement est conforme à l'évangile qui m'a été confié et qui révèle la gloire du Dieu bienheureux. Waouh, quelle introduction! Paul passe pas par quatre chemins. Et dans cette introduction, il veut donner un vif encouragement à Timothée et pointer du doigt les problèmes auxquels Timothée fait face. Et je vous propose de regarder, d'étudier ce texte au travers de trois axes. Le premier, c'est de voir ce qui menace l'Église selon Paul. Qu'est-ce qui met en danger l'Église? Et vous allez voir, on va le découvrir ensemble. Contrairement à cela, on va voir aussi, pour Paul, qu'est-ce qui va édifier l'Église. Et enfin, qu'est-ce qui sauve l'Église? Où l'Église peut-elle trouver le salut et s'assurer de vivre conformément à la volonté de Dieu? Et comme je vous l'ai dit, l'idée centrale que Paul développe au sein de cette section-là, que nous avons au sein de cette introduction, c'est que si l'Église ajoute ou si l'Église s'écarte de l'Évangile, l'Église meurt. Regardons premièrement ce qui menace l'Église. Paul voit deux types de menaces qu'il nous nomme ici. La première menace, nous les avons dans les premiers versets jusqu'au verset 4. Ce sont ces certaines personnes, je relis le verset 4, qui ont des récits de pure invention et des généalogies interminables, des préoccupations comme celles-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi. Quelle est la nature de ces débats sur des généalogies? Quelle est la nature de ces spéculations? Pour être franc, je me suis renseigné dans plein de commentaires, personne ne peut affirmer quelle est la nature exacte de ces spéculations. Probablement qu'il y avait des influences de toute une littérature extra-biblique qu'il y avait dans la culture juive et qui posait des questions de généalogie, etc., où les gens voulaient se revendiquer d'être plus ou moins de Dieu selon les familles de laquelle ils venaient, ou des gens qui spéculaient simplement sur une vision très mystique de la foi et très éloignée des écritures de l'Ancien Testament. Très difficile donc de savoir exactement quelles étaient les raisons, qu'est-ce qui se cache derrière ces inventions et ces généalogies interminables. Mais de toute manière, Paul qualifie ces dérives de pure invention et qui produisent que des spéculations terribles. Alors, pour nous, aujourd'hui, peut-être de cette salle, moi je ne sais pas, mais je me mets à la place de n'importe quelle personne qui découvre l'Évangile, et je me souviens de la manière dont moi-même j'écoutais l'enseignement et je découvrais la Bible, je me faisais cette réflexion suivante. La notion de pure invention pourrait me faire rire, parce que de toute façon, si la religion est le fruit de l'imagination d'homme, S'il y en a d'autres qui spéculent avec d'autres inventions à côté, on se retrouve à imagination des uns contre imagination des autres. Ça peut faire bien marrer quand on imagine des gens qui se battent sur des choses qui finalement ne reposent sur rien, qui sont simplement un pari sur quelque chose qui n'existe pas ou qui pourrait peut-être exister, mais de toute manière, on n'a aucun moyen d'être sûr que cela existe. Se disputer entre illuminés qui croient à des mythes, comment mieux se ridiculiser ? Mais regardez comment Paul qualifie ces thèses qui sont là. Paul dit « Ce sont des récits de pure invention » et je relis ce qui est dit au verset 10 et 11. « Tous ceux qui, la fin du verset 10, « Tous ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement que vous avez reçu, cet enseignement est conforme à l'évangile qui m'a été confié et qui révèle la gloire du Dieu bienheureux. » Un Dieu qui est le fruit de notre imagination, selon Paul, est un Dieu qui ne peut nous sauver. Une doctrine, un ensemble de choses auxquelles on croit, qui est le fruit de notre imagination, ne peut nous sauver. Le seul moyen de savoir comment l'être est de découvrir ce que Dieu révèle de lui-même et comment lui-même a décidé de nous sauver. Comment est-ce que lui-même nous dit qu'on peut être sauvé? Et c'est ce qui est merveilleux quand on élargit à la connaissance, à l'ensemble de ce que nous avons dans la Bible. La Bible ne proclame pas simplement la vérité en disant « voilà qui est Dieu, voilà ce que vous devez faire », mais en elle-même nous donne également les raisons nécessaires pour lesquelles nous pouvons croire. Et ce que Paul dit, c'est que ceux qui étaient à Éphèse n'ont jamais vu Jésus-Christ, n'ont jamais assisté à sa mort ni à sa résurrection. Ils sont comme nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Mais Paul leur dit, si vous êtes devenus chrétiens, ce n'est pas à cause de choses auxquelles vous avez imaginé, c'est parce que vous avez été convaincus de quelque chose qui m'a été révélé. Et c'est que vous avez reçu un enseignement qui est conforme à un fait qui est la mort et la résurrection de Jésus. Et ce qui vous est enseigné, que ce soit dans les Écritures de l'Ancien Testament, Paul y reviendra plus tard dans la lettre, ou dans le reste, confirme et nous donne des raisons pour lesquelles ce message de la mort et de la résurrection de Christ est un message en lequel nous pouvons croire et qui n'est pas juste le fruit d'un mythe que quelqu'un aurait pondu de lui-même. Dit autrement, nous devons croire à ce qui correspond à ce que Dieu révèle. Croire à ce qui correspond à ce que nous voudrions que Dieu soit, ne peut pas nous sauver. Et l'Église, qui avait pourtant été enseignée pendant 3 ans par l'apôtre Paul lui-même, qui avait reçu des courriers, qui avait beaucoup d'enseignements, malgré ça, partait en dérive et il y avait, entre les personnes au sein de l'Église, des débats complètement stériles, déconnectés de l'enseignement qu'ils avaient reçu, donc ils avaient quitté cet enseignement-là, et ils partaient dans des spéculations, et dans des spéculations qu'on pourrait retrouver sur un comptoir dans un bar, où moi je crois que, et moi je pense que, et de toute façon c'est moi qui ai raison parce que j'ai raison et que c'est moi qui le dis. Deuxièmement, Paul voit dans l'Église un autre combat, celui de combattre contre le légalisme, et c'est ce qu'il développe, je saute exprès quelques versets, et je relit les versets 8, il dit « Nous savons que la loi est bonne ». Là, il fait référence donc à la loi de l'Ancien Testament, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. Il faut savoir ceci, la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles. Et ensuite, Paul égrène des illustrations, 14 illustrations qui sont des illustrations, tout simplement, des transgressions des 10 commandements. D'accord ? Je vous laisserai, si vous voulez, pour vous-même comparer avec les 10 commandements et comment on voit comment ils sont transgressés. Alors, la question que Paul parle ici, c'est de comment utiliser la loi morale de Dieu en accord avec son but. Il y avait dans l'Église des personnes qu'on appelait des judaïsants, des personnes qui étaient d'arrière-plan juifs et qui, en plus du judaïsme, c'est-à-dire de tout l'Ancien Testament, tout ce qui avait été enseigné, disait « il faut garder le judaïsme, toutes les lois de l'Ancien Testament, et en plus, rajouter Jésus-Christ. Il faut obéir au judaïsme, plus obéir à Jésus-Christ. » Par exemple, il y avait eu un débat au tout début de l'Église, à savoir, est-ce que ceux qui n'étaient pas d'arrière-plan juif devaient se faire circoncire et devenir juifs pour devenir ensuite chrétien. Et s'il y avait des guerres intestines à l'Église sur ces débats-là. Et Paul, lui, face à ces personnes qui, dans l'Église, sèment le trouble et qui veulent rajouter des choses à l'Évangile, oui, tu es chrétien si tu crois en Jésus, mais en plus, il faut que tu fasses telle et telle chose pour montrer que tu es vraiment chrétien. En plus, il faut que tu participes et que tu aies tel et tel et tel comportement. C'est ça qui va définir que tu sois un vrai chrétien ou non. La foi en Jésus ne suffit pas pour dire que tu es chrétien. Et Paul va dire comment utiliser la loi d'une manière légale. On peut utiliser la loi de façon illégale. Bon, bref. Mais c'est ce qu'il faisait. Paul nous dit premièrement que la loi ne nous a pas été donnée pour rendre juste, mais pour révéler notre injustice et notre condamnation face à la sainteté de Dieu. C'est pour cela que Paul développe les effets de la loi. Voici pour qui est la loi. Pour ceux qui vivent dans ce monde-là en la transgressant. Le rôle de la loi est de révéler notre condamnation, de révéler que face à ce Dieu saint, aucun de nous ne peut se présenter devant lui et se prétendre à être sauvé, à être une bonne personne. Mais en revanche, la loi, elle, et l'observation de la loi ne peut pas sauver l'homme. Ce qui sauve l'homme, c'est sa foi en Jésus-Christ. Et c'est le deuxième point, c'est que la loi de l'Ancien Testament, son usage légitime, est qu'elle devait faire un travail de révélation de notre condamnation pour comprendre, nous amener à dire « par moi-même, je ne peux pas être sauvé ». Mais par l'œuvre de Jésus-Christ, qui lui a obéi parfaitement à la loi de Dieu, qui est Dieu lui-même qui est venu nous sauver, alors si je place ma confiance en lui seul, je suis sauvé. C'est-à-dire que je suis sauvé par la foi, sans l'obéissance aux œuvres de la loi. Et je pourrais vous citer une pléthore de versets dans Galates, Romains, etc., où Paul réaffirme cela, mais aux Éphésiens qui avaient été bien enseignés, Paul ne le développe pas plus que ça, il y a ces phrases très lapidaires, mais c'était un enseignement qui était bien enraciné dans l'Église. Et donc dans ce sens, la loi n'est pas faite pour ceux qui ont déjà été justifiés par leur foi en Jésus-Christ. La loi, dans ce sens-là, elle est pour ceux qui vivent toujours en dehors de la foi en Jésus-Christ et pour leur rappeler qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous pécheurs et privés de sa présence, mais sauvés par Jésus-Christ. Et pourtant, ces judaïsants, eux, continuaient d'utiliser la loi de Dieu dans un mauvais sens. Et Paul ne dit pas ici qu'il n'y a pas que la loi morale de Dieu est annulée, ce n'est pas du tout ça. Paul ne dit pas que la loi de Dieu n'a plus de sens, n'a plus d'intérêt, la loi morale de Dieu est éternelle, d'accord ? Dieu ne change pas, mais que la loi morale de Dieu doit être utilisée de la bonne manière, non pas pour prétendre qu'on accède au salut, mais par reconnaissance et par obéissance et parce que nous avons été sauvés. Alors, quand on regarde là ce qui menaçait les églises, qu'en est-il de nous, les amis ? Comme je l'ai dit, Éphèse, église d'une quinzaine d'années maximum, fondée par Paul lui-même, je veux dire, c'est le plus grand missionnaire qu'il ait jamais eu sur Terre, une église qui a bénéficié de tant d'enseignements, malgré ça, malgré les bénédictions qu'elle a reçues, ses avantages extraordinaires, l'Église était toujours en danger de dérive doctrinale en son sein. Et nous, à Grenoble, une Église locale qui aura bientôt un siècle, une Église où des multiples générations de chrétiens se croisent et se succèdent, serait-il sage de croire que nous sommes à l'abri des dérives, que parce que nous sommes bien installés, que nous avons une tradition conservatrice et que nous disons « oui, nous croyons en la Bible », eh bien cela est suffisant. Ce que cette lettre nous inspire et nous recommande, ce que Dieu nous recommande au travers de ce que Paul a dit à Timothée, c'est que nous devons faire attention à notre orgueil spirituel et notre suffisance. Combien de personnes vivent en un évangélisme simplement de façade. Combien d'églises se disent conservatrices, mais ne sont finalement conservatrices que dans la forme, mais qui sont éloignées du message de l'évangile. Je voudrais faire aussi une autre remarque, encore plus contemporaine, et quelque chose qui m'a souvent attristé et qui attriste de nombreux chrétiens, c'est par exemple l'usage que font certains chrétiens des réseaux sociaux pour se lancer dans des débats totalement stériles, qui sont fruits que de spéculations et qui ne mettent en avant que leur immaturité spirituelle et morale, à coup de batailles de versets qui sont pris en dehors du contexte ou de pensées de tel ou tel auteur et tout ça, et livrent un spectacle où je me dis, leurs amis qui ne sont pas chrétiens voient ça, je veux dire, ils nous tirent une balle dans le pied. Et je crois que Dieu nous appelle à utiliser beaucoup de sagesse aujourd'hui, dans un siècle où notre parole derrière un écran est finalement une parole publique où nous nous adressons à des centaines de personnes en nous mettant finalement dans la peau de ces faux enseignants, si nous ne faisons pas attention. Et je voudrais aussi, pour encore enfoncer le clou, faire appel à ma jeune expérience en tant que responsable dans l'Église. Ça fait 2 ans que je suis ancien et 4 ans que je sers à temps plein dans cette Église. En 4 ans, j'ai vu plusieurs personnes qui pourtant étaient chrétiennes depuis longue date tomber dans ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Cet évangile qui dit que si vraiment on est béni de Dieu, alors tout nous réussit financièrement, au niveau de la santé, etc. J'ai vu des personnes qui reniaient le salut par la foi seule et qui voulaient à tout prix ajouter une autre expérience spirituelle comme le parler en langue pour affirmer que c'est comme ça qu'on est réellement sauvé. J'ai vu des personnes qui étaient complètement emprisonnées par des principes psychologiques sur ce qu'est le péché et qui étaient éloignées de la Bible et qui étaient incapables de vivre une vraie repentance parce qu'elles trouvaient toujours des excuses face au péché. J'ai vu des personnes qui rejettent l'enfer parce que pour elles, un Dieu d'amour ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer et qui rejettent du coup tout ce que la Bible dit au sujet de l'enfer. J'ai vu récemment une personne qui a renié la Trinité tout simplement parce qu'elle affirme qu'elle n'est pas cohérente avec ce qu'elle pense de Dieu. Nous ne sommes jamais à l'abri, et là je ne vous parle pas de chrétiens qui seraient comme des lapins de 6 semaines, mais de chrétiens qui étaient là depuis longtemps dans l'Église et qui ont été enseignés. Et le constat que je fais, moi, là-dessus, c'est que toutes les personnes qui tombent dans ces dérives doctrinales, initialement, n'avaient pas de mauvaises intentions. Mais des personnes qui connaissaient des choses que de façon très partielle, des personnes qui se sont fait une théologie seule derrière leur écran sur Internet et déconnectées de la relation fraternelle et de l'Église. Et souvenons-nous que Paul, ici, enseigne toujours dans le cadre de l'Église. Et ces personnes, seules face à elles-mêmes, avec peu de connaissances, une fois peu affermies et un caractère assez immature, se sont retrouvées avec une spiritualité qui était en fait complètement déconnectée des Écritures. Et notre spiritualité doit être enracinée dans les Écritures. C'est pour ça, je le redis, être évangélique de nom ne suffit pas. Nous devons l'être dans notre pratique. Il n'y a pas d'âge d'or pour l'Église. Et notre responsabilité à nous tous est de veiller à ce que nous demeurions à l'écoute de l'Évangile. Enfin, je vais passer au deuxième point, ce qui édifie l'Église. J'ai repris, ici vous avez à l'écran, l'introduction de Paul qui est transmise à Timothée, enlevée, coupé, où j'ai retranché des 11 premiers versets tout ce qui était négatif, tout ce qui était de l'ordre de la dérive. Et en faisant ça, on voit quelle est la substance de ce que Paul veut qu'on vive dans l'Église. Et il dit, Paul lui dit donc, « Je t'ai encouragé à demeurer à Éphèse pour éveiller un amour d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, conforme, cet amour conformément à l'Évangile, qui m'a été confié, qui révèle la gloire du Dieu bienheureux. » et je vais revenir là-dessus sur la conclusion. Paul, ici, dit à Timothée qu'il doit avertir l'Église des dangers et l'affermir et l'encourager à revenir encore et toujours à l'Évangile. Avertir des dangers et revenir tout encore et toujours à l'Évangile. Timothée avait cet ordre-là d'avertir, de dire publiquement dans l'Église et de dénoncer ceux qui enseignaient des choses qui étaient fausses, ceux qui écartaient l'Église de sa vocation. Et sous prétexte de paix, nous pourrions, d'unité, de paix et d'unité entre nous, pour le prétexte de vivre bien ensemble, nous pourrions être tentés de dire, si quelqu'un enseigne quelque chose qui est faux, soyons cléments, soyons, c'est pas si grave que ça, finalement ce qui compte c'est l'amour. Vous voyez ? Mais ceci n'est pas l'amour au sens biblique. Et certains, et combien d'églises, ont fait des compromissions morales vis-à-vis de situations pastorales où des personnes vivaient manifestement dans le péché, mais parce qu'il y avait des liens familiaux, parce qu'on se disait « Ouh là là, ça va mettre un bazar dans l'église », on passe ça de côté. Ou des personnes qui étaient dans des dérives doctrinales et on se dit « Finalement, c'est secondaire, c'est pas important, allez, ce qui compte, c'est l'amour. » Et Paul va demander à Timothée, vous allez le voir dans toute la lettre, combien la thématique du courage, la thématique du combat pour Timothée est présente. Et par amour pour l'Église, par amour pour l'Évangile, il ne faut pas taire ces choses-là. Et nous devons toujours nous-mêmes nous préoccuper de cette question, les anciens et tous les membres de l'Église et au sein de ce qu'on vit dans toutes nos activités, est-ce que nous sommes fidèles aux Écritures ? Est-ce que nous passons au crible de l'Évangile notre façon de vivre ? Est-ce que nous laissons l'Évangile interroger nos pratiques et notre façon de vivre nos coutumes dans l'Église et nos projets ? Ça, c'est la première recommandation. Je ne développe pas plus que ça parce que ça va être développé tout au long de l'Épître. Avertir. La deuxième, c'est revenir encore et toujours à l'Évangile. Il faut que Timothée fasse revenir l'Église à l'Évangile que Paul a confié à Timothée. Et je voudrais illustrer ça avec quelque chose que j'ai vu le week-end dernier lorsque j'étais en Angleterre, où je suis parti avec d'autres responsables de notre union d'église, les CEF, où nous avons rencontré l'équivalent de notre union d'église là-bas en Angleterre. Sauf que nous on a 100 églises dans notre union d'église, eux en ont 600. Et face au déclin d'une bonne partie de leur église, ils ont pris conscience qu'il fallait développer un vrai ministère, un vrai travail au sein de ces églises qui est en train de péricliter, de ce qu'on appelle là-bas la revitalisation, réinjecter de la vie dans ces églises qui sont soit à un niveau plateau, alors peu importe la taille, hein, il y en a qui sont grosses, d'autres qui sont petites, mais qui stagnent ou qui sont en déclin. Et là-bas, j'ai visité Crossway Church à Birmingham, une église qui a été fondée en 1950. Elle a un grand et beau bâtiment à l'anglaise, merveilleux, des belles briques, etc., mais ce bâtiment est totalement laissé à l'abandon. On rentre dedans, il y a des auréoles de partout, d'humidité, ça sent la naphtaline, c'est terrible. Dans le temps, à son époque de gloire, cette église comptait 150 membres. Elle avait développé plein d'activités de bienfaisance dans son quartier. Et parce que, selon le diagnostic de son nouveau pasteur, l'église a accepté compromission après compromission, justement, par exemple, un cas de mariage, ou parce qu'il y avait dedans quelqu'un de la famille d'un ancien qui était impliqué et il y avait quelque chose qui n'était pas du tout clair. Parce que cette église avait complètement mis de côté la notion de l'évangélisation et était devenue petit à petit un club. Elle vivait en vase clos. Et parce que la prédication du dimanche était de plus en plus light, de plus en plus superficielle, l'église petit à petit a périclité. En 2010, cette église se retrouvait à 15 membres. Le plus jeune avait 60 ans et il était ancien. Et cette église s'est retrouvée face à cette question. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit fermer ou est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on existe vraiment pour l'œuvre de Dieu ou pas ? Et ils ont fait preuve d'humilité, ils en ont appelé à leur union d'église et ils ont demandé de l'aide. Et il y a un jeune homme qui s'appelle John James qui avait 30 ans, qui sortait tout de suite, de l'Institut biblique. Il a accepté d'aller dans cette église-là, pour servir ces quinzaines de personnes. Et John a exigé ceci. Il a dit, premièrement, si vous m'embauchez, c'est pour le ministère de la parole. Chaque dimanche, je veux prêcher et on va prêcher livre par livre tous les évangiles. Deuxièmement, je veux que ce petit groupe que nous formons, à nous 15, nous nous rendions redevables les uns envers les autres pour voir si nous vivons vraiment l'évangile ou si c'est simplement que de la façade. Comment ça se comporte, comment nous vivons l'évangile dans notre couple, dans nos relations avec nos enfants, avec notre famille, dans notre quartier, etc. Troisièmement, on va arrêter de se préoccuper de la croissance de l'Église. Ça, on oublie. On va se préoccuper de la croissance de l'Évangile. Et donc, nous allons faire connaître l'Évangile et faire tous nos efforts pour faire connaître l'Évangile de nouveau dans tout notre quartier. Une église, elle est en plein quartier résidentiel. Autour d'elle, il n'y a que des maisons. C'est un emplacement idéal. Durant la première année, deux couples historiques de l'Église l'ont quitté parce qu'ils étaient insatisfaits de ce que proposait John. 5 personnes sont mortes. Il a dû officier sur 5 enterrements. Il venait pour revitaliser l'église. Des membres de l'église lui coupaient la parole alors qu'il était en train d'enseigner. Il n'avait jamais vu ça. Des gens de l'église qui étaient là, qui disaient « Non, arrête, machin, etc. » Ils n'étaient pas d'accord avec lui. À la fin de l'année 2010, donc de sa première année, ils étaient 16. Nous l'avons rencontré, et la question, quand nous avons discuté avec John, on lui a dit, mais qu'est-ce qui a fait que tu as continué? Et il nous a dit ceci, il a dit, je devais juste faire mon ministère pour l'Évangile. C'est ça qui m'a permis de continuer. Faire le ministère pour l'Évangile. En 2010, ils étaient 16. Aujourd'hui, en 2018, ils sont 100. L'Église, par l'Évangile, a retrouvé de la croissance. Par l'Évangile. Et je relis ce que Paul recommande à Timothée, c'est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Venir au culte, être présent, suivre un comportement, un code éthique ou un comportement moral ne produit pas au fond de notre cœur un amour pour Dieu, ni une vie d'amour qui soit en accord avec l'Évangile. Et c'est ce que cette église de Birmingham avait oublié. Alors, qu'est-ce qui produit l'amour qui vient d'un cœur pur et d'une foi sincère? Qu'est-ce qui produit cela? Ce que Paul veut que Timothée annonce et que l'église vive, un amour, une foi sincère, un cœur pur. Comment le produire? Écoutez ceci. L'Évangile lui-même produit une vie d'amour qui s'accorde avec l'Évangile. C'est l'Évangile qui produit et qui transforme l'Église. Et Paul veut que Timothée exhorte les Éphésiens à grandir dans leur amour en mettant l'accent non pas sur les observations des lois légalistes, ni sur l'observation et des spéculations douteuses qui ne portent aucun fruit, mais sur la transformation de leur cœur. Sur la croissance de leur amour, un amour conforme à ce que Dieu veut, qui ressemble à l'amour de Dieu, à un réveil de leur foi. Et le lieu où nous trouvons le pouvoir de vraiment aimer et vivre pour Dieu, c'est ce que je vous ai mis ici, c'est l'Évangile qui a été confié et qui révèle la gloire de Dieu. Le lieu où nous trouvons le pouvoir de vraiment aimer et vivre pour Dieu, ce n'est pas dans les spéculations, le légalisme, mais dans une connaissance supérieure de l'Évangile de Christ. Dit autrement, l'enseignement qui est conforme à l'Évangile dans l'Église ne va pas créer des spéculations, ne va pas créer un légalisme et ajouter un fardeau aux membres, mais l'enseignement qui est conforme à l'Évangile va pousser l'Église à aimer Dieu, à rechercher la pureté que lui nous commande et à vivre dans une foi qui mûrit et qui grandit. Et comment y parvenir? Et c'est là ce qui est merveilleux avec ce que Paul affirme, c'est que Dieu lui-même pourvoit surnaturellement aux besoins de ceux qui le servent. Regardez, on est passé très vite dessus, mais je relis. Situation, la salutation initiale de Paul. Regardez ce que Paul dit. C'est extraordinaire. Par ordre de Dieu, notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance, par ordre de Dieu, Paul écrit. Timothée, son véritable enfant dans la foi. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, compassion et paix. Par ordre de Dieu, je demande à Dieu de t'accorder ce dont tu as besoin. Non. Non, mais Paul écrit sur ordre de Dieu à Timothée et Paul révèle à Timothée que derrière l'auteur, derrière lui, il y a Dieu qui donne des ordres. Et Paul, poussé par Dieu, demande à Dieu d'accorder à Timothée ce dont il aura besoin pour remplir son ministère. C'est merveilleux. Dieu pourvoit surnaturellement, Dieu va nous donner, va nous communiquer. L'espoir n'est pas en nous-mêmes. L'espoir de l'Église n'est pas dans l'Église. L'espoir de l'Église est en Dieu seul. Voici pourquoi nous pouvons persévérer, nous pouvons faire face aux revers, nous pouvons faire face aux déceptions quand nous ne regardons pas à nous-mêmes, mais quand nous regardons à Dieu. Et au travers de Paul, Dieu s'ordonne à lui-même de donner ce qui est nécessaire à Timothée et à toutes les générations de celles et ceux qui se lèvent pour servir l'Évangile, de leur donner ce dont ils ont besoin. Dieu s'ordonne à lui-même d'accorder sa grâce. Parce que dans sa mission, et vous allez le voir quand on va développer les difficultés que rencontre Timothée, quelle dose de grâce il va avoir besoin. Paul va lui dire « Fortifie-toi dans la grâce ». On a besoin de puiser dans la grâce de Dieu, non pas dans nos forces, mais dans la dépendance de Dieu. Dieu s'ordonne à lui-même de donner à Timothée de la compassion. Parce qu'on parle de l'importance de la rigueur doctrinale, la fidélité doctrinale que doit avoir l'Église. Mais il ne s'agit pas d'exercer cette rigueur doctrinale en étant déconnecté de la façon dont Dieu veut qu'on la fasse, c'est-à-dire rempli de patience et de douceur. Et quelqu'un qui arriverait et qui dirait « voici la vérité » et vous n'avez rien compris, et qui crache et qui méprise l'Église et qui ne fait pas preuve de patience et de compassion pour ceux qui ont encore besoin d'être enseignés, n'est pas apte et ne vit pas le ministère conformément à l'esprit que Dieu souhaite que l'on ait. Et c'est ce que Paul développera plus loin aussi au chapitre 4. Et Dieu lui-même donne paix à Timothée. Parce que ô combien de paix de Dieu il aura besoin face à ceux qui seront ses détracteurs. Par quel moyen Dieu sauve l'Église ? En pourvoyant lui-même aux besoins de celles et ceux qui se lèvent pour le servir. Et vient le temps de conclure. Paul dit ceci, l'Évangile, tout à la conclusion, fin du verset 11, « Cet Évangile qui m'a été confié à la gloire du Dieu bienheureux. » Rien de plus que l'Évangile nous révèle la gloire de Dieu. C'est ce que Paul affirme. Et Paul dit, c'est en s'affermissant dans cet Évangile que nous glorifions Dieu dans l'Église. Alors, imaginez, Dieu a donné cet évangile à Paul, Paul l'a retransmis à Timothée, Timothée l'a retransmis à l'église d'Éphèse, et c'est ainsi de génération en génération où Dieu nous demande de retransmettre l'évangile. Imaginez qu'on passe une annonce, général recherche soldat, mal payé, méprisé, critiqué, pour l'envoyer au front, prendre des coups, être blessé, être trahi et être découragé. Risque probable de mort. Eh bien, quand Timothée s'engageait dans le ministère, il savait qu'il s'engageait à suivre Dieu sur une voie qui était difficile. Mais parce que Christ, parce qu'il avait compris ce que Christ avait fait pour lui, il voulait servir l'Évangile qu'il avait sauvé et servir le Dieu qu'il avait sauvé. Alors que Dieu renouvelle notre engagement à chacun d'entre nous pour vivre conformément à l'Évangile. Amen.